nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition des Carnets de Comaguerre. Toute l'équipe, toute la fine équipe de Comaguerre, donc Roselyne qui est au pupitre, bonjour.
Oui, bonjour.
Habib qui est à mes côtés, sous son casque et sous son bonnet rouge, hein, qui est notre insigne
si.
De Comaguerre,
oui,
qu'on porte dans toutes les manifestations palestines, tous ensemble. Et puis, je voulais commencer par une commémoration. Par une commémoration, puisqu'on est aujourd'hui le 6 février 2024, et il y a très exactement 90 ans, une des plus grandes manifestations d'extrême droite de l'histoire de la Troisième République risquait de faire tomber la dite République. C'était dans les rues de Paris, c'était à l'appel de différents mouvements, donc d'extrême droite, qui en voulaient à la République, qui considéraient comme une République d'abord trop laïque, trop à gauche, tout ce qu'on peut imaginer, enfin toutes les quantités de critiques qu'ils avaient à faire, et qui étaient prêts à renverser la République. Faut être très très clair là-dessus. Hein. Il y avait dans la rue des dizaines, voire des centaines de milliers dans la rue à Paris qui sont allés affronter le Parlement avec la volonté de l'envahir. Ils n'ont pas envahi le Parlement. Mais ça a été une manifestation très dure. Donc il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu des échanges très très violents dans la rue parce qu'il s'agissait de groupes qui étaient très organisés. Ce n'était pas simplement des gens qui votaient pour les croix de feu par des mouvements d'extrême droite, c'est des gens qui défilaient dans les rues en marchant au pas, avec un uniforme. Donc c'était des milices de type fasciste qui existaient dans la France ces années-là. On était, je le rappelle, un an après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et donc ça donnait des idées à tous ces messieurs, dames. Et donc ils étaient prêts à la violence pour renverser la République. Ils étaient d'autant plus prêts qu'ils savaient bien, eux, contrairement à la légende qu'on essaye de nous raconter depuis, que Hitler n'était pas arrivé au pouvoir par les urnes. Il faut savoir que dans les élections qui ont été établies donc en Allemagne au début de l'année 1933, donc en janvier, le parti nazi, au lieu de progresser, régresse. Régresse au point qu'il, ses espoirs d'arriver par la voie électorale, il en avait, et il avait de grands soutiens dans le grand patronat et dans la grande bourgeoisie pour y arriver, mais sont déçus. C'est-à-dire que le mouvement ascensionnel du parti nazi dans les urnes allemandes et dans le peuple allemand était en train de diminuer. Ça se passe en janvier 33. Et au lieu de dire, eh ben, puisque le mouvement s'est affaibli, eh ben, laissons-le s'affaiblir, hein, puisqu'au fond, on n'en a pas besoin, c'est exactement l'inverse qui est fait par le président, donc, qui s'appelle, c'est le vieux maréchal Hindenburg, qui s'est rendu célèbre pendant la Première Guerre mondiale, et qui appelle Hitler au pouvoir. C'est-à-dire, il appelle un parti qui n'est pas dominant. Hein. Le parti nazi a eu, je crois, 27-28% des voix aux élections du mois de janvier 1933, et il l'appelle au pouvoir. Et donc là, on met court à cette idée de la légende « Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes ». C'est faux. C'est la grande bourgeoisie allemande qui, dans sa grande inquiétude d'autre chose, et l'inquiétude d'autre chose, c'était la croissance du mouvement socialiste et du mouvement ouvrier, qui lui progressait, et c'était ça que la grande bourgeoisie ne voulait pas voir progresser. Donc il fallait trouver l'obstacle, fabriquer l'obstacle en disant « avec ce pouvoir-là, avec le pouvoir du parti nazi, on va passer aux choses sérieuses ». Et les choses sérieuses vont arriver très très vite après la désignation donc de Hitler comme chancelier du Reich, donc premier ministre du Reich. Ça, on est en mars, puisqu'il se trouve que en mai, le lendemain du 1er mai 1933, qui est un 1er mai massif, où tous les syndicats, les partis socialistes, partis soviétiques, toute la gauche est là en masse dans toutes les rues, le régime, le gouvernement d'Hitler interdit tous les partis de gauche et les syndicats. Et c'est pas simplement un geste comme ça, je signe un décret. Dès le jour même et dès le lendemain, tous les dirigeants de ces partis-là et de ces syndicats sont en prison. Hein? On a donc là un coup d'État qui est organisé à la suite de l'installation au pouvoir des nazis par la grande bourgeoisie allemande. Ça remet les choses en place. Mais pour nous revenir au 6 février 34, donc, qui suit ces événements, le but suivi, c'est très clair, c'est dit après tout, si on va envahir l'Assemblée nationale, si on renverse ce gouvernement qu'on n'aime pas, ce gouvernement mené par des radicaux, des gens un peu de gauche, un peu laïcs, etc., qui ne nous conviennent pas, on va faire la même chose que ce qu'a fait Hindenburg en Allemagne l'année dernière, c'est-à-dire permettre à nos partis, à nous, d'arriver au pouvoir sans que les électeurs aient à en décider. C'est bien ça qui se joue. Donc ça a été une journée très très violente, très forte. Il faut, pour donner un exemple des moyens qui avaient été mis en œuvre par ces groupes, ils savaient qu'ils seraient confrontés à la garde républicaine qui protégerait le Parlement et les édifices publics. Ils savaient que la garde républicaine pouvait charger à cheval des manifestations. Or, il faut savoir, alors on n'en a plus l'expérience, mais une charge à cheval d'une manifestation, c'est redoutable, c'est très très dangereux. Et donc ces gens-là s'étaient équipés, ils s'étaient entraînés, ils s'étaient équipés de couteaux extrêmement puissants et pointus, et ils coupaient les jarrets des chevaux par derrière, de telle façon que les chevaux de la garde républicaine s'effondraient sur le sol les uns après les autres. Et un cheval à qui on a coupé les jarrets, il est bon pour l'abattoir. Donc c'est pour montrer le niveau de préparation et le niveau de réflexion de ces groupes d'extrême droite qui étaient mis en œuvre ce 6 février 34. Bon, finalement ils ne réussissent pas, l'opération rate, et ça va déboucher, et c'est là que c'est intéressant comme leçon historique, même si les circonstances sont totalement différentes, c'est la riposte elle vient quelques jours après par une grande manifestation de la gauche, hein, donc Parti Socialiste, Parti Communiste, Syndicat, qui va déboucher, qui va être le cœur, là où l'endroit se fabrique, le Front Populaire. Et donc la riposte de la gauche, elle est là. Ça s'est pas fait, c'était pas gagné. Le soir du 6 février 34, personne n'aurait pu dire que ça allait se terminer comme ça. Mais en fait, il y avait encore les forces organisées qui ne voulaient pas d'un coup d'État fasciste en France et qui allaient mettre sur pied le Front Populaire et amener la victoire de juin 36. Après, le reste est connu. Mais je voulais rappeler cet épisode qui est particulier pour dire que d'une part, il y a des moments où tout paraît désespéré. Effectivement, au soir de 6 février 34, il y a eu des morts, enfin, c'était épouvantable, et la République avait survécu quasiment par miracle. Personne ne pouvait dire que 2 ans après, il y aurait un Parlement majoritaire de gauche à Paris, à l'Assemblée nationale, et un gouvernement qui allait signer les accords Matignon, etc. Tout ça est connu. Bon, et je voulais le rappeler parce que les circonstances, alors il y a beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir, et en même temps, dire, et c'est un espèce de message d'optimisme, rien n'est jamais acquis dans l'histoire, c'est-à-dire que tout événement est porteur, effectivement, d'autres événements tout à fait contradictoires, et effectivement, la tentative de coup d'État du 6 février 34 était porteuse, on le sait nous, bien sûr, du Front Populaire et de ses mesures sociales. C'est une leçon qu'il faut toujours avoir en tête. Le pire n'est jamais acquis. L'histoire continue à se faire tout le temps. Et il y avait, alors là où il y a des différences, il y avait effectivement en France des forces de gauche importantes qui auraient été capables de se mobiliser et d'aller de l'avant vers une victoire populaire qui a été la victoire de juin 36, qui a été ensuite, alors là encore, la bourgeoisie s'est défendue pour éliminer petit à petit les acquis de ce front populaire, mais ce front populaire, il a existé, il a pu gagner les élections, c'est ça qui est important à rappeler. Ceci étant dit, je voulais reparler, puisque mardi dernier, on a passé beaucoup de temps, et c'était très très intéressant, à écouter notre grand témoin, à savoir le chirurgien Christophe Oberlin, qui nous expliquait ce que c'était que Gaza, ce que c'était que les hôpitaux à Gaza, ce que c'était que la médecine sanitaire et le niveau sanitaire des hôpitaux gazaouis, et donc palestiniens. Et donc il nous a redonné une autre image de la Palestine et des Palestiniens, c'est-à-dire qu'il nous a donné une image très positive et qui est gommée ici, c'est-à-dire le Palestinien, ce n'est pas un modèle unique, il y a des classes sociales, il y a des Palestiniens riches, il y a des Palestiniens moins riches, il y a des Palestiniens très éduqués, il y en a qui le sont moins, c'est une société complexe, c'est une société avec une architecture et tout. Bon, mais il nous a montré qu'on ne pouvait pas réduire le Palestinien ni au monsieur qui, avec une ceinture d'explosifs, va se faire sauter quelque part, ni au petit garçon qui lance des cailloux sur un char, ni au bédouin qui est en train d'arroser ses oliviers avec son kéfier sur la tête. Hein, que c'était une société déjà relativement organisée, complexe, avec des couches dirigeantes, éduquées, etc. Et il a abordé indirectement, mais on n'a pas accordé beaucoup de temps, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, il a accordé beaucoup de temps à la question de l'UNRWA. Alors l'UNRWA, qu'est-ce que c'est? On en a beaucoup parlé ces derniers jours, et ça mérite qu'on développe là-dessus. L'UNRWA, c'est une création de l'Assemblée Générale des Nations Unies. qui date de 1949 et qui est mis en place à partir de 1950. C'est une association, une organisation plutôt reconnue par l'ONU et fabriquée par l'ONU. C'est une association humanitaire de soutien aux Palestiniens. C'est ça que ça veut dire. Soutien aux Palestiniens, ça veut dire que à partir du moment où unilatéralement l'État d'Israël se proclame au mois de mai 48 comme un État souverain et que parallèlement il n'y a pas, contrairement aux indications de l'ONU en 1947, il n'y a pas création le même jour d'un État palestinien, les Palestiniens deviennent, du jour où cet État israélien est proclamé, des réfugiés sur leur propre terre. Ils n'ont plus de chez eux. J'explique bien, vous habitez un endroit, il y a un monsieur qui s'installe chez vous, qui dort dans votre lit, qui à la limite couche avec votre femme, je vais jusqu'au bout, ça fait ça, hein, va manger les légumes dans le jardin, hein, il dit maintenant c'est chez moi, et toi, je te laisse partir, tu peux t'en aller, hein, et donc s'il peut s'en aller, il va trouver un endroit où on va l'accueillir parce qu'il est parti, et je rappelle que c'est c'est 700 ou 800 000 personnes, c'est pas un ou deux ménages, c'est ça, hein, donc c'est 700 ou 800 000 personnes,
700 000.
Voilà, ils deviennent des réfugiés. Alors il y en avait qui étaient déjà des réfugiés avant la proclamation de l'État, et puis dans les mois qui suivent la proclamation de l'État d'Israël, ça continue parce qu'Israël ne s'arrête pas dans le chemin qu'il a déjà ouvert, il continue à en expulser le maximum. Donc le réfugié devient une réalité politique permanente de cette région-là du monde. Et l'UNRWA, elle est là pour accueillir les réfugiés. Et l'UNRWA reconnaît que ce sont des réfugiés, et l'ONU reconnaît en créant l'UNRWA qu'effectivement, tous ces Palestiniens-là de l'époque n'ont plus de pays, n'ont pas de pays, et qu'il faut quand même qu'ils ne meurent pas de faim, parce que rien ne permet de dire qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Ils ne sont accusés de rien, ils sont simplement réfugiés, il y a quelqu'un qui est venu dormir dans leur lit. C'est ça la réalité. Bon. Et l'UNRWA se met en fonction, et des fonctions qu'elle n'a jamais abandonnées depuis, et l'UNRWA fonctionne dans les États où il y a des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire en gros les trois États qui sont autour de la Palestine, à savoir, je les prends dans l'ordre, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Et il y a depuis cette date, dans ces trois pays, des camps de l'UNRWA, des camps donc de réfugiés. Et puis il y en a même sur le territoire d'Israël, puisque sur le territoire d'Israël, au fur et à mesure que la colonisation a progressé, des gens qui n'avaient pas encore été mis à la porte de chez eux, dans ce qu'on appelle les territoires occupés, ou à Gaza, ont été mis à la porte. Et donc là aussi, sur le territoire d'Israël même, il y a des camps de l'UNRWA. J'ai sous les yeux une carte que je ne peux pas vous montrer, mais enfin, ouais, qui montre bien toutes ces implantations avec les noms, etc. Donc quand, par exemple, au début de l'attaque israélienne sur Gaza, on a parlé d'un camp au nord de la zone de Gaza, d'un camp de réfugiés, il s'agissait bien d'un camp de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui avaient fui, par exemple, la Cisjordanie et qui étaient installés là, et donc ils étaient logés, alimentés, éduqués, soignés par l'UNRWA. C'est-à-dire que l'UNRWA assure la survie du peuple palestinien. C'est très très intéressant. Alors il faut se rendre compte, on part de 1950, ça veut dire que des gens que vous pouvez rencontrer dans des camps de réfugiés, dans les camps de l'UNRWA, moi j'en ai rencontré, je sais pas si tu en as rencontré toi en Syrie, moi j'en ai rencontré au Liban, peuvent être là depuis la quatrième génération. Mais ils sont toujours là. Et ils ont toujours ce statut de réfugiés. C'est-à-dire qu'ils ont un droit, hein, ils ont été exclus de leur pays, ils ont un droit à y revenir le jour où ce pays sera mis sur pied, le jour donc le deuxième État prévu par l'ONU qui sera créé, ce qui est la position de la diplomatie internationale, y compris de la position de l'ONU. La position de l'ONU, malgré ses faiblesses par rapport aux exactions de l'État israélien, l'ONU n'a jamais renié son précédent vote en disant qu'il y avait deux pays prévus. Et tant qu'il n'y en aura pas un deuxième de créé, l'ONU ne sera pas respectée. Et elle devra maintenir... Et c'est vrai qu'elle a maintenu cette position de principe. Le problème, c'est que ça n'a pas eu beaucoup d'effet, puisque Israël et les États-Unis ne veulent pas le savoir. Il n'empêche que la position de l'ONU, elle est claire. Ce qui explique, par exemple, qu'à l'heure actuelle, et tant mieux, le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, se rend bien compte que là, il joue totalement la crédibilité de l'ONU. C'est-à-dire l'ONU s'est engagée, et les principaux pays à part le camp occidental et les États-Unis, savent bien qu'effectivement, la solution, elle est déjà dans les textes approuvés par l'ONU, c'est-à-dire deux États. Et un État pour les Palestiniens.
Ils n'ont rien inventé.
Voilà, mais non, rien. Et à partir du moment où il y a un État palestinien, le statut de réfugié disparaît. C'est-à-dire que vous pouvez revenir. Ça implique le droit au retour. Et ça, évidemment, les sionistes n'en veulent pas du tout, du tout. Parce que le droit au retour, c'est faire venir ceux qui détestent. Alors, soyons plus clairs, c'est même pas les Palestiniens. La haine sioniste, elle, c'est une haine anti-arabe. C'est une haine raciste. C'est très très clair. Ça s'est confirmé. Il y a eu un meeting raciste qui s'est passé à Jérusalem, je ne sais pas où, à Jérusalem, à Tel Aviv ces derniers jours, où il est venu un certain nombre de ministres du gouvernement de Netanyahou et qui ont clamé, dans un meeting public en tant que ministre, leur haine des Arabes. Bon, c'est tout à fait clair.
En dansant.
Oui,
en,
ah oui, de, ah oui là, c'est la joie.
Hein, alors qu'il y a des otages voilà. Chez le Hamas, des Israéliens.
Voilà, oui. Voilà, on en est là, il faut bien. Alors. Il faut bien s'en rendre compte pour se rendre compte qu'il y a dans la classe dirigeante d'Israël des personnages extrêmement dangereux du point de vue des droits de l'homme, que ces gens-là ne subsistent et n'ont des postes importants et n'ont d'occasion de faire entendre leur discours et leur chant et leur danse de satisfaction. Hein, c'est danser le racisme et danser l'assassinat de l'autre, c'est épouvantable comme situation. Bon, c'est bien ça qui se passe. Donc, il ne faut pas rêver, c'est-à-dire que ça ne sera pas facile de les faire taire. Mais ils ne sont pas seuls au monde et ils sont soutenus par des gens beaucoup plus puissants qu'eux. Et c'est là que ça se joue. Donc moi, c'est au sein...
Oui, je trouve juste que ce qui est épouvantable, c'est que le monde entier les écoute au lieu de faire quelque chose pour les empêcher de parler comme ça.
Oui, c'est vrai. Oui. Ben, ils savent qu'on ne les désavouera pas et qu'en plus, oui, ce que je cite ne sera pas passé sur les écrans des grandes chaînes de télévision, donc les médias n'en parleront pas. Et donc, on ne pourra... Le simple citoyen français ou anglais ou tout ce qu'on veut
ne sait pas.
Non, mais les grands de ce monde le savent.
Mais bien entendu, bien entendu, bien entendu. Et ça se joue bien effectivement au niveau des rapports de force entre les grands de ce monde, pour être simple dans l'expression. C'est bien là que ça se joue. Parce que si effectivement ces personnages dansent et se réjouissent et crachent de la haine anti-palestinienne comme ça devant les micros, c'est qu'ils se sentent soutenus. Du jour où ils ne se sentiraient pas soutenus, ben ils se tairaient et puis ils rentrent bien heureux si on les laissait continuer à vivre. Hein. Je ne suis pas... personnellement, je n'appelle pas le sang à couler pour régler ça. Il faut simplement tourner la page, taisez-vous maintenant, vous n'êtes pas intéressant, vous n'exprimez rien du tout qu'une espèce de haine de groupe, ça suffit, c'est tout. On vous a assez vu. Bon, pas plus. Pas plus que d'ailleurs l'ANC sud-africaine a dit on va éliminer tous les tenants de l'apartheid. Hein, maintenant, restez là où vous êtes, on ne vous veut pas de mal, hein, mais maintenant c'est fini, l'apartheid c'est terminé. Bon, c'est tout. Et il n'y a pas eu de liquidation de dirigeants bourgs ni anglais en Afrique du Sud. Alors les situations ne sont pas tout à fait différentes, mais de ce point de vue-là, la position sud-africaine est exemplaire et elle me paraît mériter d'être répétée. On ne se venge pas dans du sens. Le sang n'appelle pas le sang. On est une population majeure, humaine, et on défend d'autres valeurs que les vôtres. C'est ça qu'on a. Et donc défendre la valeur de respect des personnes, c'est effectivement proposer une autre type de civilisation que celle qu'on nous vend à longueur de temps sur les écrans de télévision. Et au cinéma, hélas, beaucoup trop. Bien, voilà donc cet endroit. Qui a la fonction que je vous explique et qu'on vous a peut-être expliqué ces jours-ci, mais enfin j'étais un peu étonné, ça n'a pas beaucoup occupé les médias officiels. Bon, mais c'est très important parce que c'est ça que ça permet d'une part à maintenir la conscience de réfugié, vous êtes réfugié, c'est-à-dire on vous a pris votre terre, vous êtes parti, mais vous avez le droit de revenir parce que vous étiez chez vous quand on s'est installé chez vous, ça c'est très très important. Et puis, vous pouvez, puisque ça dure depuis 1950, vous pouvez vivre, c'est-à-dire manger, aller à l'école, être soigné si vous êtes malade, tout ça c'est possible dans les camps de l'UNRWA. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Alors, la décision, et c'est extraordinaire, la rapidité d'exécution des politiques impérialistes, il suffit que le vendredi 26 janvier, dans le courant de l'après-midi, je crois que c'était vers 15h, je me souviens d'avoir lu les premières dépêches à cette heure-là, la Cour internationale de justice annonce effectivement ses décisions, disant que les caractéristiques du génocide sont tout établies sur le territoire de Gaza, pour que le jour même, les premiers États disent qu'ils arrêtent de financer l'UNRWA. C'est-à-dire, c'était évidemment prêt. Hein, la position que je défends, je l'explique, en fait, que ce n'était pas possible que cette position contre l'UNRWA soit prise comme ça, de façon improvisée. Pourquoi ce n'était pas possible? Parce qu'effectivement, depuis des jours et des jours, je rappelle que la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide remontait au mois de novembre. Et que depuis cette date-là, le tribunal et les magistrats essayaient d'observer tous les documents fournis par l'Afrique du Sud pour savoir si effectivement il y avait bien tentative de génocide. Et donc au fil des jours, les États qui suivaient ça de près, on imagine les États-Unis bien entendu, Israël et tous les autres, savaient très bien dans quel sens la Cour internationale de justice allait tomber. Elle ne pouvait pas tomber autrement que là, tellement les preuves étaient accablantes, à la fois les faits sur le terrain et les propres déclarations des dirigeants israéliens qui appelaient à la mort. Donc c'était inévitable que la Cour internationale de justice penche comme elle l'a penché. Elle a penché dans le côté de la vérité. Donc ça, tous les États, les États-Unis en premier, Israël le savait depuis des jours et des jours. On attendait que la confirmation officielle par le communiqué, la publication de l'arrêté. Bon. Et donc ça veut dire que la riposte à l'arrêt de la Cour de justice était en préparation depuis des jours et des jours. Et elle est arrivée toute prête, toute cuite, hein, toute bien ficelée dans son paquet cadeau, si j'ose dire. C'était, ah attendez, il y avait dans les attaquants des Israéliens le 7 octobre des salariés de l'UNRWA. Horreur, horreur. Alors, pas des milliers, parce qu'il y a quand même, j'ai vérifié les chiffres, il y a 13 000 employés de l'UNRWA sur Gaza. Il y en a 30 000 au total dans tous les camps. Hein, 13 000. Donc, on en a trouvé quelques-uns, vrais ou pas, neufs, paraît-il, qui auraient été proches du Hamas ou pro-Hamas et qui auraient fait du mal à participer aux activités du 7 octobre.
Beaucoup de mensonges.
Voilà. Aucune preuve n'est fournie. Hein. Ouais. Simplement, on met en circulation cette nouvelle qui, d'après donc, un ancien fonctionnaire de l'ONU, a été arrachée sous la torture dans les prisons israéliennes. Hein, je veux citer M. Greg Morkimer, c'est très très précis. C'est un monsieur qui a démissionné d'un poste au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, hein, parce qu'il a considéré que les choses allaient très très mal à Gaza. Bon. Et donc, une fois qu'on a eu ces aveux, peut-être sous la torture, ou peut-être pas des aveux, parce qu'on peut faire avouer n'importe quoi, de toute façon, c'est les services de renseignement israéliens qui ont mis l'information en circulation. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est très très grave pour la situation de la démocratie dans nos pays, y compris le nôtre. Il suffit que une information non fondée, obtenue sous la torture de 9 personnes, parce que c'est, rien ne dit qu'effectivement il n'y avait pas dans les salariés de l'UNRWA des gens qui étaient sympathisants ou même membres du Hamas. Rien ne peut le dire, mais rien ne dit le contraire non plus. Et donc se fier à cette affirmation concernant donc 1 pour 10 000, hein, des membres des salariés de l'UNRWA qui travaillaient à Gaza et qui savaient qu'à Gaza c'était le Hamas qui était au pouvoir depuis les élections qu'il avait gagnées. Oui. À Gaza, le Hamas c'est pas un groupe de terroristes qui circulent dans les rues en faisant peur à tout le monde, c'est les gens qui ont gagné les élections, donc qui organisent la vie. Donc qu'il y ait eu des, c'est bien possible, mais là n'est pas le problème. Le problème est que des pays comme les États-Unis en premier, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la France, dans le quart d'heure, disent qu'il faut arrêter de financer l'UNRWA. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de financement de l'UNRWA? Ça revient à la création de l'UNRWA lui-même, donc en 1949-50, où effectivement, l'UNRWA est une structure de l'ONU, mais qui doit être financée par des dons des États volontaires. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Assemblée générale de l'ONU qui vote tous les ans un budget pour l'UNRWA comme elle vote des budgets pour d'autres activités de l'ONU. C'est un budget séparé, comme l'est le budget, par exemple, de l'UNESCO ou de l'UNICEF, etc. Et là, il est simplement prévu que les États qui sont prêts à le faire peuvent contribuer au financement. Et dans ces États, alors il y en a beaucoup, et il y a eu au départ, et c'est intéressant à noter, il y a eu beaucoup d'États arabes voisins. Et il était habituel, et on savait que c'était comme ça que ça fonctionnait, que les monarchies du Golfe en particulier donnent beaucoup d'argent à l'UNRWA. C'était une façon pour eux de dire, comme ça, bon c'était juste un chèque qu'on faisait, mais de dire qu'ils étaient solidaires avec les Palestiniens. Ça n'allait pas bien bien plus loin, mais ils donnaient beaucoup d'argent. Or quand on regarde l'évolution des financements, on s'est aperçu que petit à petit, les monarchies du Golfe ont commencé à donner de moins en moins à l'UNRWA. Ça voulait dire que quoi ? Ça voulait dire qu'ils se disaient, bon, c'est bien de défendre les Palestiniens, mais après tout, d'abord, ça nous coûte. Ça leur coûtait pas tellement par rapport à la fortune qu'ils maîtrisent. Mais ils se sont dit, c'est une façon de montrer que politiquement, pour les Palestiniens, c'est pas très intéressant. Alors, il faut s'arrêter là-dessus, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on est un monarque d'une économie donc vivant de la rente pétrolière, d'une tribu qui a pris le pouvoir à coup de sabre, disons, il faut être clair là-dessus sur l'arrivée des monarchistes au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir des Palestiniens? Ben, c'est un peu difficile parce que quelquefois ça veut dire soutenir des gens très très à gauche, soutenir même des communistes arabes, il y en a eu dans le FPLP, etc. Ça veut dire soutenir des gens qui sont au moins républicains, qui
Georges Habash,
voilà, qui sont pas pour une monarchie palestinienne. Il n'y a jamais eu de revendication de monarchie palestinienne. Et donc effectivement, pour tous ces royaumes, aussi riches soient-ils, c'était à moitié cohérent de soutenir les Palestiniens, parce qu'on soutenait des gens qui, sur le plan de leurs orientations politiques générales, n'étaient pas du tout favorables à ces régimes-là. Alors bon, il y avait cette obligation morale, ils sont malheureux les Palestiniens, on met un peu d'argent, mais ce soutien, ce coup de chapeau, disons, s'était estompé au fil des temps. Et ce qui avait pris la place, parce que là il y avait l'intérêt général de l'équilibre international, c'était effectivement les États-Unis en premier, l'Allemagne en deuxième, l'Union européenne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, tous ces gens-là qui disaient, attention, si on arrête l'UNRWA, qu'est-ce qui se passe? Les Palestiniens se révoltent. Alors il faut savoir, je donne le chiffre, parce qu'il y a quand même aujourd'hui 5,9 millions de Palestiniens dans les camps de l'UNRWA, presque 6 millions de personnes. Hein, quand on ajoute tous les camps dans les trois pays que je vous ai cités, voilà, il y en a partout.
Liban,
bon. Et donc on ne pouvait pas, dire que ces gens-là, on ne pouvait pas dire, je mets entre guillemets, c'est grossier, qu'ils crèvent. Ce n'était pas possible de le dire, parce que l'humanitarisme occidental ne peut pas dire une chose pareille. Il ne peut pas dire, je veux que ces gens-là crèvent. Il le peut d'autant moins qu'effectivement, il est tenu par les règles de l'ONU, par les votes, etc., y compris ceux qu'il n'a pas soutenus, mais il est tenu par le cadre international. Donc, c'est finalement l'Occident qui a pris la relève du financement de l'UNRWA à la place donc des monarchies arabes. Et c'était, à la limite, un tout petit peu plus cohérent politiquement, puisque c'était des pays démocratiques, des républiques, qui soutenaient un camp qui était plutôt du côté des républiques que du côté des
monarchies. J'ai l'impression que c'est de la mendicité. Hein.
Oui, alors, il y a le côté... Il y a le côté d'âme patronesse. Mon Dieu, ces gens-là meurent de faim. Alors, effectivement, ça permettait de se donner bonne conscience. Ben, ils sont malheureux, mais on les aide un peu, ils ne meurent pas de faim. Voilà l'évolution qui est intéressante à donner de cette UNRWA dont on parle beaucoup. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors c'est intéressant pour la suite des événements, parce que dans la mesure où ces financements arrêtent, alors tous n'arrêtent pas, puisqu'il y a des pays qui ont décidé de ne pas arrêter, mais ils sont minoritaires, c'est pas les plus gros donateurs qui ont. Les deux plus gros donateurs, c'est les États-Unis et l'Allemagne pour l'instant, l'Union européenne en trois, et les autres un peu moins. Mais si les plus gros donateurs arrêtent, des propos diplomatiques ambigus, la France a dit je suspends mes versements, la France a été encore plus, j'allais dire, tordue que ça. Il n'y a pas eu de versement pour le premier trimestre 2024. On n'a pas dit qu'on ne versait pas. On dit, le chèque n'est pas parti. Ah, je suis désolé, je vais voir, je l'ai peut-être laissé dans une enveloppe, etc. On en est à des niveaux d'hypocrisie invraisemblables, mais enfin, le fait est là. Bon, l'UNRWA, dans 15 jours maintenant, à peu près, sera en état de cessation de paiement, du fait que les plus gros donateurs n'ont pas versé pour le mois de janvier, pour le mois de février, etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire si l'UNRWA est en cessation de paiement? Ça veut dire que les 13 000 salariés de l'UNRWA et les 30 000 en tout ne sont plus payés, et donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus aucun service social, il n'y a plus aucune école, il n'y a plus aucune infirmerie, aucun dispensaire, rien du tout qui fonctionne.
De toute façon, ça a été détruit. Hein.
Oui, alors en plus, pratiquement à Gaza, tous les locaux de l'UNRWA ont été détruits, et il y a eu, dans le personnel de l'UNRWA à Gaza, ça c'est pas 9 personnes, il y a déjà 140 personnes de l'UNRWA salariées qui ont été assassinées.
Hein,
qui sont mortes dans les bombardements. Donc. Et donc, s'il ne se passe plus rien, effectivement, là, c'est la porte ouverte à l'élimination rapide. Hein, pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicaments, rien. Donc c'est la porte ouverte au massacre de masse. C'est ça qui se joue dans les 15 jours. Or, effectivement, rien n'indique dans la position israélienne qu'ils aient l'intention d'arrêter quoi que ce soit. Alors qu'ils savent que dans 15 jours, d'après l'arrêt de la Cour internationale de justice, ils devront expliquer quelles mesures ils ont prises pour arrêter le génocide, puisqu'il y a quand même une dizaine de raisons qui sont manifestes, qui sont en train de commettre un génocide. Bon, ben ils diront qu'ils n'ont rien fait, et puis ça s'arrêtera là, puisque de toute façon la Cour internationale de justice ne peut rien décider. Elle dit, vous avez tort, c'est pas bien ce que vous faites. Oui, c'est pas bien ce que vous faites. Mais là, maintenant, on est en train de tuer en masse une population. On va. Comment ça peut bouger? Effectivement, parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de pays qui réagissent, et pour qu'au niveau de l'ONU elle-même et du Conseil de sécurité, il y ait un débat réel, je pense qu'il aura lieu, et qui mette les États-Unis en position d'accusation. Et ça, il faut qu'ils le fassent, parce que le moment est particulièrement opportun, puisque mettre les États-Unis en accusation, c'est dire à M. Biden, tout ce que vous avez pu raconter, tous vos propos sur les démocrates, c'est mieux que les républicains, Biden, c'est mieux que Trump et tout, tout ça ne vaut rien. Tout ça ne vaut rien, puisque en fait, là où vous avez enclenché le génocide en ne versant pas vos fonds à l'UNRWA, hein, vous êtes en train de commettre aussi, vous êtes complice du crime de génocide. Voilà. Alors, ce raisonnement que je tiens pour les États-Unis, je le tiens en premier pour les États-Unis, mais je le tiens également pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne, pour l'Italie, et y compris pour la République française. C'est tout à fait clair, et c'est tout à fait clairement mentionné dans l'arrêt de la Cour internationale de justice. La complicité de génocide, c'est effectivement ne rien faire pour que ce génocide ne continue pas. On en est là, et ça méritait, je pense, d'être précisé clairement, parce que je pense que pour beaucoup d'auditeurs et pour beaucoup de personnes dans l'opinion française, l'UNRWA c'était un peu quelque chose de méconnu. Maintenant c'est plus méconnu. Il y a donc 6 millions de Palestiniens qui, dont la vie quotidienne et la survie dépend de l'existence de l'UNRWA. C'est encore pire à Gaza, bien entendu, mais c'est vrai partout, puisque si l'UNRWA arrête, il s'arrête aussi bien dans les camps au Liban, dans les camps en Jordanie, dans les camps en Syrie. Donc c'est l'effondrement de la Palestine, et c'est la disparition à terme, c'est bien ça qui est visé par les sionistes, c'est la disparition à terme du peuple palestinien. Roselyne.
Oui, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je suis désolée.
Non, mais vous
m'avez... L'UNRWA fonctionne depuis 1950.
Oui.
Donc ça fait 74 ans.
Ouais, oui.
Ça fait 74 ans qu'on paye des gens pour aider d'autres personnes,
ouais,
qui n'ont soi-disant plus d'État. Pourquoi ? Je ne comprends pas pour la logique. Puisqu'on dit que ces gens-là n'existent pas, pourquoi est-ce qu'on les soutient à ce point ? C'est-à-dire 30 000 salariés, c'est énorme pendant des années, oui, à payer, à financer. Je ne comprends pas cette logique. Voilà.
Ben, pour moi, ça relève, je ne sais pas ce qu'Abib en pense, pour moi, ça relève de la mauvaise conscience. C'est-à-dire on a laissé faire quelque chose qui, du point de vue du droit international, est une monstruosité. C'est-à-dire on a annoncé deux États, il y en a un seul qui se crée et qui essaye d'éliminer l'autre. Il y a des gens qui devaient dire, à un moment donné, on ne parlera plus de la Palestine. Bon, ça va se terminer. C'est ça. Hein, donc mauvaise conscience, dire on fait l'UNRWA parce que pour montrer qu'on ne les laisse pas crever de faim tout de suite.
Oui, ils ne pensaient pas que ça durerait aussi longtemps.
Voilà. Et une fois qu'ils étaient pris dans cette mécanique, effectivement, le fait que les régimes, les monarchies arabes aient mis beaucoup d'argent, ben c'était très bien, tant mieux, ils faisaient ça. Eux aussi, c'est la bonne conscience. Ce n'est pas du tout parce qu'ils étaient d'accord avec les Palestiniens. Mais ça, c'était un problème. Puis, à un moment donné, les Palestiniens sont intervenus en dehors de Palestine. Il y a eu toute une série d'actions, y compris des actions à caractère terroriste, comme on a dit. Donc, ça les troublait un peu, tous ces monarques du Golfe. Et donc, chacun y aller avec ses propres raisons politiques pour dire, bon, essayons de les calmer un peu, on les laisse survivre, mais plus tôt ça se finira, mieux ce sera. Et ça s'est pas fini parce qu'il y a une espèce d'énergie vitale dans le peuple palestinien qui est tout à fait normal, puisque on leur a pris leur terre, c'est tout. C'est ça l'énergie vitale. Alors, c'est pas l'énergie du monsieur qui était fermier quelque part et qui depuis est mort depuis très longtemps. Hein, depuis quand il est arrivé à 50 ans dans le camp de l'UNRWA, il est décédé depuis. Mais c'est cette énergie vitale, elle est passée à son fils, elle est passée à ses filles, elle est passée à ses petits-enfants, et elle est toujours là. Et c'est ça qui pose problème. C'est parce que si elle avait disparu, ben voilà, le problème serait enterré, l'UNRWA aurait pu dire, ben voilà, j'ai fini, mais ils ont tous abandonné, ils sont tous partis. Alors il y en a au Canada, il y en a en Afrique, il y en a partout, hein, mais il n'y en a plus sur place. Ouf, Ouf. Et ça, c'est ce que les sionistes souhaitent, évidemment. Dire, partez,
qu'on soit... L'objectif, c'était d'éliminer tous les Palestiniens, c'est ouais, tout. Un peu comme les Indiens en Amérique ou les aborigènes en Australie.
Tout à fait.
Ça, c'est clair.
Voilà, c'était délicat pour nos démocraties qui se veulent si présentables, si respectueuses des droits de l'homme, de dire, écoutez, tant pis, on vous a pris votre chez-vous, on vous a pris votre champ, votre ferme, tout. Ben, on est un peu désolé, mais on fait un petit geste pour vous consoler. C'était pas plus que ça. Et puis, à force, au bout de 75 ans, le problème, c'est que l'énergie vitale palestinienne, elle est toujours là.
Ouais.
Elle est toujours là. Et à aucun moment, j'en finis sur la question des régimes arabes, à aucun moment, on a vu un Palestinien dire vivement qu'on est un monarque. Ça n'a jamais, je pense, effleuré le moindre cerveau palestinien raisonnable. Ils n'attendent pas d'avoir le roi de Jordanie qui a pris la place. D'ailleurs, le roi de Jordanie, vous le savez, a pris la place à un moment. Et il a été assassiné par un Palestinien à Jérusalem. Et puis, ils ne veulent pas avoir des espèces de nobles du désert, là, avec leur tradition de droits de l'homme, qui sont tout à fait discutables, des gens qui décapitent, etc. C'est pas ça que veulent les Palestiniens. Alors, je ne dis pas qu'ils veulent une république socialiste, mais ils ne veulent évidemment pas une monarchie rétrograde, au nom d'un islam qui n'est pas... En plus, c'est pas le même islam. L'islam que vous proclamez en tant que wahhabite, en disant aux gens, tous ceux qui ne sont pas d'accord, je leur coupe la tête, c'est pas l'islam des textes. Il y a plusieurs lectures de l'islam. Et donc, c'est pas ça non plus qu'il y a chez les Palestiniens. Et les Palestiniens sont majoritairement musulmans, mais pas tous. Et dans les groupes qui soutiennent ce qu'on appelle le front du refus, il y a des groupes comme le FPLP, ou le FPLP commandement général, qui ne sont pas du tout sur une base musulmane. Donc, il faut éviter ce mélange-là. Et donc voilà, l'UNRWA est là, l'UNRWA doit continuer, mais il faudra bien un jour que l'UNRWA disparaisse parce qu'il y aura un État palestinien. C'est ça la vérité, c'est tout. C'est pas un pseudo-État, c'est un petit morceau d'État pour des services sociaux, pour les services d'éducation et tout, mais c'est tout sauf un État. Un État, ça a une défense, ça a une politique étrangère, c'est une administration générale, c'est un territoire. Là, c'est des services sociaux d'un État, un État n'existe pas, c'est juste une amorce d'État, un embryon. Bon. Souhaitons que ça ne dure pas très longtemps et qu'on débouche vraiment sur cette question d'État. Mais il faut voir qu'il faudra que les fascistes qui dansaient à Jérusalem arrêtent de danser. Je ne leur veux pas plus de mal que ça, mais il faudra qu'ils arrêtent de danser en disant chaque fois qu'il y a un Palestinien qui meurt, je danse. C'est insupportable. Merci de votre attention. On va écouter un petit peu une petite musique qui est une chanson qui a beaucoup cours sur les territoires et à Gaza en ce moment, qui s'appelle, alors j'ai le nom quelque part, qui s'appelle, voilà, Telk Kadeya. Alors ça, Habib va nous dire, Telk Kadeya, qu'est-ce que ça veut dire?
Kadeya, c'est un problème.
Voilà. Et tel
Kadiya, tel problème.
Tel problème. Tel problème. Voilà.
Kadiya. C'est. Oui. Oui.
Yonkas fi salahif bahari. Yaqtul hayawanat bashari. تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنسف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلقى
Voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, sur la rubrique, ça s'appelle TELK, TELK-HADEYA, donc K-A-D-E-Y-A. Vous allez le trouver très facilement sur YouTube. Alors, je vous donne la lecture de quelques paroles qui sont très intéressantes, parce que c'est sur le double langage, et ça s'adresse principalement aux gens de l'Occident qui tiennent un discours humaniste, écologiste, de respect de la nature, de respect des choses et tout, et ils insistent sur la contradiction. Et ça donne par exemple, secourir des tortues de mer, tuer des animaux humains, c'est pas la même chose. Être un ange de blanc vêtu avec une moitié de conscience, faire fi des mensonges, des mouvements de libération, selon la normalité, c'est pas la même chose. Comment être civilisé, satisfaire à tous les critères, avoir un langage mesuré, se plaire à embrasser les arbres, appeler son concierge un gardien, aux côtés, ça c'est l'autre face, d'une armée qui abat des écoles, se voir éclabousser de sang et dire que tout le monde est victime, c'est pas la même chose. Comment puis-je croire en ce monde qui nous parle d'humanité quand une mère pleure son enfant, meurt de faim ou sous les bombes ? Un monde qui renvoie dos à dos la victime et le bourreau, et tout honneur, intégrité en toute neutralité. C'est pas la même chose. Voilà, et toute la chanson est de cette acabit. Tu veux en lire un autre bout, Roselyne ?
Je vais juste ajouter, comment pourrais-je dormir en paix ? Comment me boucher les oreilles lorsqu'une famille entière est enterrée dans sa maison et qu'on empêche les secours, comme si la Terre qui les revêt ne venait pas de la planète Terre.
C'est bien.
Voilà. Voilà, et tout ça, ça nous renvoie à ce discours, il est tellement progressiste, on aime la Terre, on aime tout le monde, toutes les espèces et tout, et là, il y a une partie de l'espèce humaine qui est massacrée, et ça ne fait rien. Ben si, il faut que ça fasse. C'est ça qu'il faut qu'on dise et qu'on redira à ce micro, et merci à Radio Galère de nous laisser le loisir de le faire, une fois encore. Pour revenir à d'autres sujets moins immédiatement difficiles à supporter, je vais vous dire un mot sur le nouveau président du San Salvador, qui s'appelle M. Bukele, qui vient d'être réélu. Alors ce monsieur, c'est un monsieur un peu particulier, puis il se trouve que c'est un exilé palestinien. Ouais. Bon, qui n'a pas demandé lui à revenir en Palestine, il ne fait pas partie des réfugiés. Il s'est installé un peu par surprise à la tête de son pays il y a 4 ans, au début de son premier mandat, et vient d'être réélu triomphalement, au point qu'au Parlement, sur 60 députés, il y en a 58 de son parti. Il n'a même pas attendu la proclamation des votes par l'instance électorale responsable, il l'a annoncé lui-même, j'ai gagné. Alors c'est très intéressant parce qu'il est sur une trajectoire qui est valable dans d'autres pays d'Amérique latine, qui est de dire il y a des voyous, il y a trop de voyous, il y a des trafics en drogue, il y a tout ce qu'on veut, j'élimine les voyous et votez pour moi. Et donc effectivement, il élimine les voyous, c'est fait, donc régime autoritaire, et la population qui est d'une certaine façon débarrassée des voyous, qui étaient des racketteurs, des tueurs, etc., dans un premier temps, trouve que c'est bien. Effectivement, ce qui explique les résultats. Et de toute façon, tous les gens à qui ces résultats ne plaisent pas sont en prison. C'est-à-dire qu'on a une espèce de fausse démocratie au nom de la lutte contre la corruption, le banditisme et tout, qui fait que devient un bandit toute personne qui n'est pas d'accord avec le président Bukele. Donc on a les limites de cette démocratie, au point que le résultat est là. C'est triomphal comme réélection, encore qu'il y ait une partie des gens qui n'aient pas voté. Et puis, 58 députés sur 60, effectivement, M. Bukele est un dictateur démocrate. C'est un modèle qui inspire beaucoup la situation équatorienne, puisque le mania de la banane, M. Noboa, est à peu près sur la même trajectoire. Pour ce qui est de l'Argentine, j'en dis un mot puisqu'on est en Amérique latine, on peut se poser des questions, parce que c'est bien là qu'il voulait aller, M. Milei, mais apparemment c'est pas si facile. D'une part, c'est pas si facile parce que sa majorité parlementaire est issue des équipes du président Macri, donc c'est une droite classique, mais pas du tout une droite folle. Il n'y a pas en Argentine des raisons de dire que c'est les mafias qui font la loi, ni qu'il y a des brigands partout, donc sa position est un peu plus faible. Alors on va voir évoluer les choses. Il y a même des positions qui sont prises par une critique de son premier refus de dire « je rentre pas dans les BRICS alors que j'y avais été invité ». Bon. Ce qui met le feu aux poudres, ce qui risque de le mettre au foudre et qu'il a mis, puisqu'il y a eu des manifestations à compte, c'est que monsieur Milei veut aller, je ne sais pas si c'est cette semaine ou ces jours-ci, il veut aller en Israël pour montrer que là sont ses vrais amis. et qu'au fond, c'est là qu'il a ses soutiens. C'est-à-dire qu'il fait cette partie, il décide de faire partie de cette internationale du crime d'État, hein, qui est évidemment anti-palestinienne, qui est pro-israélienne et qui dit que la force règle tout. Bon, on connaît. C'est pas gagné côté argentin. C'est pas gagné côté argentin. C'est à suivre de très très près. On en reparlera sûrement. Par contre, effectivement, au San Salvador, tout petit pays, c'est gagné pour un certain temps. Un autre endroit où c'est pas gagné, mais où ça se complique, c'est le Pakistan. Le Pakistan, puisque finalement, à force de procès et un coup d'État donc parlementaire, le président Imran Khan risque de finir ses jours en prison, sauf soulèvement populaire, sauf mouvement révolutionnaire, carrément. Bon. Les élections auront lieu cette semaine, il ne peut pas y être. Alors, il y a eu 3 procès, je les prends dans l'ordre. Le premier procès était un procès pour corruption, donc il lui a valu 10 ans de prison. La peine a été annulée en appel. Donc j'insiste bien, peine annulée en appel. Alors après l'annulation de la condamnation d'un cas 10 ans de prison pour corruption, la justice ne relâche pas M. Imran Khan. Alors c'est bien, vous voyez, il y a une justice, on dit vous allez première instance, vous êtes condamné, vous allez en appel, vous êtes relaxé, et bien vous restez quand même en prison. Vous restez en prison parce qu'on vous en a préparé un deuxième. Hein. Et donc, il faut bien qu'on vous ait sous la main. Puis surtout, dès que vous sortez, il y a des foules immenses autour de vous qui vous acclament. Donc, ce n'est pas possible qu'on vous laisse dans les rues. Bon. Deuxième prison, c'est un procès pour divulgation de secrets militaires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, effectivement ? Il a profité des fuites de Edward Snowden, M. Imran Khan, et il a publié des textes de la CIA disant ce qu'il fallait faire pour mettre à la porte M. Imran Khan, tout simplement. Il dit, voilà ce qui me concernait, le coup avait été organisé par les États-Unis, et il fait circuler la dépêche. Viol du secret militaire, paf ! 17 ans de prison, ça c'est... Bon. Et puis, comme ça ne suffisait pas, c'est déjà pas mal, 17 ans, il a quand même 71 ans, Imran Khan, donc 7, ça fait 98, ça fait un peu tard pour revenir au pouvoir. Bon, oui, vous imaginez, Biden a 98 ans. Bon, pourquoi riez-vous ?
Il pourra bon. Pas marcher.
Bon, allez, c'est pas gentil, mais quand même. Bon, et donc, oui, c'est pas. Non, bref. Et donc, on lui en a inventé un troisième. Alors là, c'est pour mettre les traditionalistes dans leur poche. C'est un procès parce qu'il vient de se marier avec une femme qui était une veuve donc, de notre personnage. Donc ça, c'est le droit pakistanais. Mais il apparaît-il dans le droit coranique un délai entre le moment où le défunt meurt et le délai du procès. Et il y a quelques jours d'écart, il s'est trompé. Il y avait 3 mois et puis il a manqué quelques jours. Les 3 mois n'y sont pas. Et donc là, atteinte au droit coranique et tout, c'est la folie. C'est la folie. Donc, il va encore avoir droit à une série d'années de prison. Bon, et donc, je dis effectivement, la situation est bloquée. C'est-à-dire que c'est clairement les États-Unis qui ont décidé que ce monsieur ne devait pas diriger le Pakistan, quelle que soit l'audience de son parti, quelle que soit son audience populaire, et quel que soit l'accueil qui avait été fait par un certain nombre de pays étrangers, de ses voisins et tout. Il ne faut pas qu'il gouverne. Il est trop populaire, il est dangereux, et surtout, il n'est pas aligné. Il n'est pas entre les mains des États-Unis, ce qui est exactement le cas contraire des services de renseignement et de l'armée pakistanaise. Je voulais insister là-dessus parce qu'on en est quand même à des moments où effectivement les États-Unis ont encore la capacité de mettre à mal un chef d'État. Alors, sans crime, sans tuer personne, etc. Les manipulations de ce type-là, ils en sont encore tout à fait capables, surtout quand ils ont un appareil militaire qui contrôle bien, comme ils l'ont toujours contrôlé, en particulier au moment de la guerre d'Afghanistan.
Vous savez pourquoi ils ont un délai de 3-4 mois ? Parce que la femme, elle peut risquer d'être enceinte.
Voilà, c'est pour l'histoire, voilà, exactement.
Et il n'a pas respecté ceci,
voilà,
alors
ils ont dit... Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Parce que voilà. Le délai vient de là, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire, si elle est enceinte après 4 mois, oui. Ça ne peut pas être l'ancien époux qui l'a... Voilà. Ouais. Bon. Non, voilà, ça a un sens, mais là, ils se sont jetés là-dessus.
Là-dessus, bon. Bien sûr. Bon,
voilà. Parce que, pour le faire encore plus, mais il avait déjà ses 17 années de prison gagnées pour divulgation de secrets. Alors, effectivement, c'est comme Assange à la limite, Imran Khan. Ouais, vous diffusez des dépêches du département d'État et de la CIA, et vous êtes un traître. Donc, vous avez simplement dit ce qu'ils avaient prévu de faire. Ils avaient prévu de vous faire sauter. Bien. Ça, c'était un petit clin d'œil sur le Pakistan, au passage, pour montrer donc qu'il y a encore des capacités de résistance très perverses des États-Unis, qui, quand ils n'arrivent plus... Alors, c'est plus des coups d'État, c'est pas l'invasion de l'Irak en 2003, c'est plus tordu, c'est plus vicieux, c'est plus... Voilà, c'est ça. Mais ils ne lâchent rien. Quand ils décident que tel personnage ne doit pas diriger un État, ils arrivent à le mettre un peu sur la touche. Bon. Alors, ça se jouera probablement quand même avec aussi... les Pakistanais, il y a quand même 200 millions de personnes. Le parti donc fondé par Imran Khan a beaucoup de succès. Il y a eu d'ailleurs pendant la campagne électorale actuelle un certain nombre d'assassinats de ses militants, parce que il faut pas simplement s'en prendre au chef, il faut aussi qu'il n'ait pas de troupes, mais il a des militants. Hein. Donc il y a eu quelques assassinats, je m'arrête pas là-dessus, mais enfin, donc on est dans une situation extrêmement tendue au Pakistan, qui s'explique par la taille du pays. Et par le fait qu'il soit une puissance nucléaire. Ensuite, puisqu'on en est dans les puissances nucléaires, deux mots sur les dernières élucubrations de M. Emmanuel Macron. M. Emmanuel Macron, pendant que son Premier ministre affrontait l'opinion et le Parlement, ça se passe pas très très bien au Parlement, manifestement il n'est pas très respecté par les parlementaires, c'était prévisible, M. Macron est allé faire la fête avec les monarques suédois. Alors là, comme ça, il ne s'occupait pas des basses affaires de la vie quotidienne des Français et des paysans français en particulier. Et il a prononcé une phrase très importante. « La France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Union européenne. » Ah ! Alors ça, c'est important, puisque la Suède est dans l'Union européenne, donc il le dit dans un pays de l'Union européenne, et il a dit « Écoutez, je suis là, la France, moi, Emmanuel, je vous protège avec ma bombe atomique. » Vous tous, je suis le protecteur de 400 millions d'Européens. Hein ? Ça mérite quand même qu'on se penche avec respect sur le personnage. Le problème, alors, il a déjà dit, ça fait partie de son rêve, parce qu'il trouve manifestement que l'habit de président français est trop petit pour ses larges épaules et pour son énorme tête stratégique. Et donc, coincé aux entournures, il dit, si je dis je suis le chef de l'Europe parce que c'est moi qui défends l'Europe avec ma bombe, hein, l'Europe va se mettre à ses pieds en disant, vas-y Manu, on compte sur toi, sans toi on n'est rien. Hein. Bon, alors, c'est probablement pas comme ça que ça va se passer. Je pense en particulier que du côté de Berlin, on va pas trouver ça très très drôle. Hein, on va dire, mais qui il est ce petit tout, hein, pour faire tout ce bruit. En Suède, il n'est pas venu dire ça à Berlin, bien entendu, pas plus qu'il ne l'aurait dit à Rome ou ailleurs. Et donc, on a la poursuite d'espèces de rêves éveillés d'Emmanuel Macron. Ce qui est dommage, c'est qu'il soit président de la République. Qui rêve éveillé, ça peut arriver à d'autres, hein, mais qu'il représente et qu'il oriente l'avenir de 60, presque 70 millions de personnes maintenant, c'est quand même inquiétant, et ça devrait sûrement, et ça fait sûrement réfléchir, les 400 millions d'autres qui n'ont pas envie d'être sous sa coupe, parce qu'ils en croient. Donc, mais il n'arrive pas à sortir de cette ambition, parce que, je dis, il se voit plus qu'il n'est, et il se voit une espèce de Bonaparte du 21e siècle, etc. Je voulais quand même souligner que les crises, la maladie se poursuit. C'est-à-dire, c'est une nouvelle crise, il y en a déjà eu, mais la maladie se poursuit. Ce monsieur n'est pas soigné, c'est manifestement pas. Alors, est-ce que écarté du pouvoir, il se sentirait mieux ? Est-ce qu'il serait pris en charge par je ne sais quelle institution ? On ne sait pas. Bon, en tout cas, je souhaite que la France ne soit pas chargée simplement des soins psychiatriques pour un chef d'État qui ne devrait pas l'être. Bien. Bon. Hein? Oui. Dernière chose, on va partir un petit peu de l'Afrique pour parler des élections qui n'ont pas lieu, enfin, alors qui devraient avoir lieu au Sénégal. Alors,
le 25 février.
Ça n'aura pas lieu.
C'est
alors,
fini, ouais.
Alors, on a affaire donc à un président sortant qui ne peut pas se représenter, qui sait que s'il se représente, il viole la Constitution, donc il a trouvé un de ses amis pour le représenter, ça c'est tout classique, mais qui sent bien en plus que la campagne se présente mal et que, y compris son candidat, risque d'être battu, et donc lui avec. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il est encore chef d'État, théoriquement, il dit, ah ben les élections sont reportées. Voilà. Sont reportés s'il est dédié, en espérant qu'entre-temps, il va trouver une solution à sa difficulté. Et puis, il semblerait que ces dernières heures, il ait annoncé une date au mois de décembre. C'est ce qu'on vient de me dire à l'instant. Moi, ça m'avait échappé. Bon, alors, c'est peut-être. Mais en fait, ce qu'il y a de magnifique, c'est que vous avez donc un chef d'État qui dit qu'il voudrait bien que son camp reste au pouvoir, mais qui sent que ça ne se passe pas très, très bien, ça ne se présente pas bien, et qui dit ben, écoutez, on fera les élections quand je serai sûr de gagner. Hein, autrement, on ne les fait pas. C'est une curieuse conception de la démocratie. Je me présente pour être sûr de gagner, autrement, je n'y vais pas, et je propousse les élections, et on verra bien. Hein. Alors, ça, c'est du Macky Sall tout pur. Je pense pas que ça va beaucoup lui profiter, parce que ça va donner encore plus d'énergie à ses opposants. Qui êtes-vous ? Et ça va, j'espère, donner à réfléchir à ceux qui le soutiennent, la République française en particulier, pour dire, regardez, il est plus présentable, ce monsieur-là. Il joue avec les textes, il se présente pas, il repousse la date, etc. Et il peut encore la repousser une autre fois. On dit, tout est possible si on le laisse faire. Donc, ne le laissez plus faire. Et je pense que les Sénégalais, y compris, vont y mettre du leur. Et puis, je voulais vous parler d'une réunion qui se tient en ce moment, qui est assez intéressante, mais dont on parle peu dans les milieux non spécialisés. Ça s'appelle le World Defense Show, qui se tient à... Alors, l'exposition de la défense mondiale, ça se tient à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, du 4 au 8 février. On est en plein dedans. C'est un espèce de salon de l'armement international. Ça, il y en a d'autres, il y en a en France, mais là c'est quand même un endroit important parce que les pays, le pays de l'Arabie Saoudite en particulier et quelques autres sont des gens qui achètent beaucoup d'armements, on le sait, pour des dizaines de milliards très régulièrement. Mais ce qui se passe mérite d'être dit et ça va faire un peu de peine à un certain nombre de groupes d'intérêt dans notre pays. C'est-à-dire que c'est un triomphe des marchands d'armes russes. Et donc, les marchands d'armes russes sont organisés, parce que dans la Russie, il y a des restes d'États centralisés, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui s'occupe des exportations de toutes les compagnies qui fabriquent des armements en Russie. Hein. De la même façon qu'il y a un seul organisme qui s'occupe de l'exportation des centrales nucléaires, du carburant, etc. Bon. Donc, on a des restes de centralisation d'États qui sont forts. Et donc, l'organisme qui s'occupe de ça dit que depuis 2 ans, les progrès de l'industrie de l'armement russe sont tels que le monde entier arrache l'armement russe. Ça veut dire quoi alors ? C'est un peu triste à dire. Ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, très, très précisément ? Mais il s'est passé que l'armement russe s'est amélioré, que toutes les faiblesses qu'ils avaient sur certains chapitres, sur certains armements, je ne rentre pas dans les détails et tout, ont été compensées par de nouvelles innovations, de nouvelles productions, que les usines sont derrière et fabriquent les nouveaux produits, et que donc l'armement russe est, parce qu'il a l'expérience du terrain, reconnu comme étant excellent. C'est ça que ça veut dire. Alors, on peut dire, c'est pas réjouissant de dire ils sont les meilleurs en industrie de l'armement. C'est pas eux qui ont choisi le sort de l'Ukraine et de la Crimée. C'est les autres qui sont allés faire les coups d'État et c'est bon. À partir du moment où ils ont senti qu'ils étaient visés, ils ont commencé à se défendre. Et ils se défendent très bien et maintenant, ils sont arrivés. Merci, alors on pourrait dire à la limite, merci à l'Occident. Vous nous avez obligés à améliorer notre matériel militaire. On a fait la preuve qu'on était capable. Il est améliorable, il est amélioré. On le produit en grosse quantité et le monde entier se l'arrache. Qu'est-ce qui se passe ? Mais on pleure chez Lockheed, on pleure chez les fabricants français. Eh bien oui, mais ça, c'est vous qui l'avez voulu, la guerre en Ukraine. Hein ? Eh bien voilà, vous avez le résultat. Alors vous avez beau envoyer des milliards et des milliards pour qu'elle continue, ça ne marche pas très bien. Et surtout que ce qui se passe en matière de la fourniture d'armes à l'Ukraine est presque grotesque. Et j'explique. Sur 2 cas qui viennent de se passer ces derniers jours. Les États-Unis propose à la Grèce, qui n'a pas beaucoup d'argent, nous disent en fait, on va vous donner quasiment du matériel militaire neuf, donc des chasseurs, des tanks, etc. Et vous allez envoyer tout votre vieux matériel en Ukraine. Alors c'est un calcul complètement idiot. Vous envoyez que du matériel que vous devriez réformer. Vous n'avez pas d'argent pour en acheter, mais on vous en donne. Et donc, qui profite finalement ? C'est les industries de guerre américaines qui vont vendre du matériel, enfin, donner plutôt du matériel à la Grèce, puisque en fait c'est les États-Unis qui paieront. C'est le gouvernement qui paiera et c'est Lockheed qui encaissera. Hein, donc ils vont envoyer de vieux F-16 en Ukraine, qui sont dépassés, et ils vont avoir des F-35 tout neufs. Bon. Et là, l'Équateur est en train de faire la même chose, c'est-à-dire que l'Équateur va se voir doté par la grâce des États-Unis de matériel militaire états-unien neuf, et il va envoyer son matériel vieux en Ukraine. Alors, avec ça, l'armée ukrainienne est sûre d'arriver à des performances extraordinaires. Hein, ils n'auront que les Ravans, tous les matériels déclassés de ces deux pays. De combien ? Oui.
En fait, ils s'en fichent, les États-Unis, de
oui.
du matériel. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que ça dure en Ukraine.
Voilà, ça dure, et puis en même temps, et puis en même temps, leur matériel se vend chez les gens qui sont obligés. L'Équateur et la Grèce, ils n'ont pas la capacité de s'opposer politiquement aux États-Unis. Donc on leur dit, vous allez avoir des avions neufs. Et ils disent, bah, merci pour les avions neufs. Hein. Voilà. Mais on en est à un niveau ridicule qui fait que les exportateurs d'armes russes peuvent dormir assez sur leurs deux oreilles, j'allais dire. Je regarde l'heure tout de suite et je voulais donner une petite information qui va faire plaisir à Christophe Oberlin s'il nous écoute, mais je ne pense pas qu'il en ait le temps. C'est qu'on s'est aperçu, alors vous savez que pour revenir à Gaza, l'armée israélienne a décidé, comme le nord de la bande de Gaza était vide de tous ses habitants, ils n'avaient plus besoin de l'occuper, hein, puisqu'il n'y a plus personne. Hein, tout le monde est au sud. Bon. Dans des conditions épouvantables, chacun le sait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que de terre, sous terre, il y a une espèce de... C'est le printemps, ça a germé, et ce qui sort, les graines, c'est des combattants du Hamas, qu'on voit dans les rues. On voit dans les rues, et j'ai vu une mention disant qu'ils avaient essayé de réouvrir l'hôpital Al-Shifa, où précisément Christophe Oberlin avait l'habitude d'opérer, et qu'ils se mettaient à distribuer de la nourriture et des vivres, et puis un peu d'argent à ceux qui restaient encore là au péril de leur vie. Donc en fait, on a, et c'est intéressant à noter, au péril de leur vie, mais les combattants du Hamas sont sortis de leur trou, et ils sont en train de prendre pied dans le nord de Gaza. Bon, c'est très très bien, parce que c'est aussi un geste, enfin une situation qui donne de l'espoir sur la suite des événements. Ils ne sont pas tous morts, ils sont là, et ils se comportent comme un
80% pays. Sont restés.
Voilà.
Voilà, et même 80% des tunnels qui sont intacts.
Voilà, tout ça fonctionne.
Donc, bon...
Voilà ce qu'il était important de dire. Donc, la vie peut reprendre. Alors, ça n'enlève rien aux souffrances du million et demi de personnes qui sont tassées au sud de la bande dans des conditions épouvantables. Ça rend absolument indispensable, je confirme, qu'il faut absolument arrêter le massacre dans 15 jours. Il faut que l'UNRWA reprenne son travail. Mais ça montre bien aussi qu'il y a des arguments pour que l'Occident se rende compte qu'il ne peut pas poursuivre très loin dans cette roue horrible, qui le déconsidère, c'est-à-dire que l'Occident est en train de se déshonorer en tant que civilisation. C'est ça qu'elle dit, la chanson palestinienne.
Ouais.
Hein, vous vous déshonorez en tant que civilisation. Comment voulez-vous qu'on vous croie avec votre double langage, etc. Donc on ne vous croit plus, c'est plus possible. Donc réfléchissez, si vous voulez encore être reconnu comme des gens importants sur la planète, il faut que vous ayez un message civilisé. Pas d'hypocrisie, pas l'argent avant tout. Tout ça, c'est très très important. Voilà, merci de votre attention, merci de votre écoute, et on se retrouve mardi prochain.
Merci Rose.
Hop.